Radio Kapi.
Les titres de ce journal, nouvelle attaque des EDF hier vendredi à Mabissio, en territoire de Lubero au Nord Kivu. 9 personnes tuées, d'autres kidnappées et des maisons incendiées. C'est le bilan de cette incursion, selon nos sources sur place. Le chef de l'État condamne la brutalité avec laquelle l'opposant d'Elie Sesanga a été interpellé par la police jeudi à Kinshasa. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit au cours du Conseil des ministres d'hier vendredi. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, y revient dans ce journal. Notre invité dans ce journal, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires, Jeanne Alacha, vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. Bonjour. Au Nord Kivu, au moins 9 personnes ont été tuées, d'autres kidnappées et des maisons incendiées lors d'une nouvelle attaque des EDF vendredi à Mabissio, un village du secteur de Bapère dans le territoire de Lubero. Selon des sources locales et de la société civile, les assaillants ont ciblé ces villages où l'armée n'est pas déployée avant de s'attaquer aux civils et de piller quelques officines pharmaceutiques. La population locale s'est déplacée vers d'autres villages voisins jugés plus sécurisé. L'administrateur du territoire de Lubero confirme ces informations et annonce que la coalition des armées congolaises FRDC et ougandaise UPDF est à la poursuite des assaillants. Le colonel Alain Kiwewa est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
C'était hier vers les après-midi. Nous avons connu ce drame-là de ces terroristes EDF MTN. Le bilan est de 9 personnes tuées, dont 6 hommes et 3 femmes. Et comme dans leur mode opératoire, ils ont encore incendié les maisons et brûlé certaines boutiques et pharmacies en fin de semaine. Ravitailler en médicaments et en produits vivriers. Alors, donc la coalition Forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise, donc le PDF, sont à leur poursuite en ce moment-ci.
Dans l'entretemps, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Maniema appelle les éléments de la police et des FRDC basés dans le territoire de Kasongo à l'ordre. Lawa Moselemani Taylor l'a dit ce vendredi 15 novembre lors de la parade mixte organisée en leur faveur. Il met en garde tout celui qui va se compromettre aux lois du pays et promet des sanctions sévères. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawa Moselemani Taylor, joint par Florence Kizalunga.
Devant ces patriotes, au nom du gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse, je suis venu leur conscientiser, pour leur donner du cœur, pour que la mission à laquelle ils sont appelés accomplir, que ces policiers, que ces éléments de l'ordre puissent l'exécuter en respectant les règles d'art. Et nous avons profité de cette occasion pour présenter le président de la société civile qui est venu, ayant suivi qu'il y avait des éléments de l'ordre, soulagé, tant sapé. Il est venu avec sa contribution, il a procédé à une petite collecte de sa base pour pouvoir appuyer les éléments de l'ordre à la restauration. Parce que le président de la société civile ne voulait pas à ce que sa population puisse commencer à être rançonnée, parce qu'on ne peut pas faire la sécurité en excluant la population. Donc, en collaborant avec lui, la mission de maintien de l'ordre, ça va s'accomplir comme il se doit. Je venais de leur dire d'ailleurs, de rappeler, parce que les militaires qui sont arrivés là, ils sont venus en appui à la police. Donc, c'est pour une mission de maintien de l'ordre public. Ils ont une discipline. On a toujours dit, dans l'armée, il n'y a pas une mauvaise troupe, il y a un mauvais chef. Nous avons longuement parlé avec les responsables. Ce sont des gens qui sont bien formés, qui connaissent la déontologie militaire, qui connaissent comment il faut se comporter. Donc, et puis, ils ne sont pas à l'abri des poursuites. Nous allons activer aussi l'auditorat qui est ici, d'être très vigilant. Et à chaque fois qu'il y a une violation qui touche un élément de l'ordre, c'est tout législatif devant les instances militaires, qu'on puisse l'inquiéter. Donc, il n'aura pas d'électron libre.
Dans la province de la Tchopo, les anciens combattants réclament leur salaire de septembre et octobre 2024. Ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient de rétention de leur salaire lors d'une rencontre mercredi avec le président intérimaire de l'Assemblée provinciale de cette juridiction. Cependant, le chef des divisions provinciales des budgets les appelle à l'apaisement puisque, dit-il, les démarches sont en cours pour résoudre leurs problèmes. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Au cours de cette rencontre du président intérimaire de l'organe de Libéran avec la délégation des agents publics de l'État retraités, on a noté également la présence des cadres de services intervenant dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment des chefs des divisions provinciales de budget, finances, anciens combattants, ainsi que du comptable public de ce service. Selon ces cadres de l'administration publique, le salaire de septembre aurait déjà été payé si un message du gouvernement central n'était pas intervenu pour arrêter ce processus. Et d'ajouter que conformément au message de l'ordonnateur du gouvernement, la paie ne pourra intervenir qu'après le contrôle physique de tous les anciens combattants par une mission qui viendra de Kinshasa. Quant au mois d'octobre, déclare le chef de division provinciale de budget, l'argent n'est pas encore décaissé par le gouvernement. En outre, précise-t-il, la division des anciens combattants n'est pas répertoriée sur l'état liquidatif de ce dernier trimestre de l'an 2024. Il croit savoir que les anciens combattants seraient peut-être migrés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Néanmoins, Simon-Pierre Lossoya leur demande de garder le calme, puisque, souligne-t-il, les autorités ne tarderont pas à réserver une suite favorable à leurs revendications. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Le président de la République condamne la brutalité avec laquelle l'opposant d'Elise Sanga a été interpellé par la police jeudi à Kinshasa, selon les comptes rendus du Conseil des ministres d'hier vendredi. Au-delà des mesures déjà prises à l'encontre des policiers, auteurs de la bavure décriée, Félix Tshisekedi engage les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité à prendre des dispositions préventives nécessaires quant à l'encadrement des manifestations publiques afin que pareil dérapage ne se reproduisent plus de la part de la police. On écoute l'extrait de ces comptes rendus lus par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, extrait proposé par Grace Amzati.
Depuis le 14 novembre 2024, une vidéo devenue virale sur la toile montre des policiers se saisir de manière peu recommandable de l'acteur politique d'Elise Sanga. Des informations parvenues au président de la République font état d'une interpellation de ces derniers lors d'une activité de sensibilisation contre la révision ou le changement de la Constitution. Il a rappelé qu'au terme de l'article 23 de la Constitution, toute personne a le droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du strict respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Peu importe les motifs de l'interpellation de cet acteur politique, la méthode utilisée par les éléments de la police pour le conduire à leur poste ne devrait nullement s'apparenter à des voies de fait traduites par une brutalité qu'il a déplorée et condamnée.
Une autre réaction est celle du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui s'est dit profondément choqué par cette interpellation brutale de Elise Sanga, tout en rappelant que la Constitution de 2006 est le fruit d'un référendum populaire qui a été l'acte fondateur de l'avènement de la démocratie en RDC. Selon lui, cette démocratie est aujourd'hui chancelante et menacée par un régime en pleine dérive autoritaire, méprisant les libertés fondamentales garanties par ses contrats sociaux et par les conventions internationales relatives aux droits humains auxquelles notre pays a librement souscrit. L'actualité, c'est aussi cette alerte de la plateforme de protection des lanceurs en Afrique, PLAF, et les consortiums Congo n'est pas à vendre, CENPAV, qui ont appelé ce vendredi la National Prosecuting Authority, NPA, sud-africaine, à enquêter sur les fonds congolais détournés et dissimulés dans les biens immobiliers en Afrique du Sud. Ces organisations de la société civile ont lancé leur appel au cours d'un échange avec les médias à Kinshasa. Les porte-parole de CENPA a exprimé sa préoccupation de l'absence d'action des autorités sud-africaines à la suite des soumissions de preuves démontrant des politiques congolais ayant blanchi les fonds détournés dans l'acquisition des propriétés au pays de Mandela. Jimmy Kande au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons voulu, avec nos amis de Open Secret en Afrique du Sud et les différentes organisations afro-hautes autres qui sont dans cette plainte, rappeler aux autorités sud-africaines que nous attendons d'eux de pouvoir agir et d'aider les Congolais à pouvoir récupérer tous ces biens qui ont été achetés en Afrique du Sud avec de l'argent public du contribuable congolais. Alors qu'on est en train de s'adresser en même temps aux autorités sud-africaines. Cette conférence est aussi une forme de rappel aux autorités congolaises. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans une impunité totale. Nous avons décrié cette impunité à l'époque de Kabila et aujourd'hui, rien ne semble changer. Le président de la République, récemment, il a dit qu'il était prêt à ouvrir les casseroles. Ouvrir les casseroles passe également par l'ouverture de l'enquête Congo Hold Up qui doit faire en sorte que l'argent public congolais qui a été détourné, des biens qui ont été achetés avec cet argent, puisse être restitué aux Congolais.
Direction Lekwilu, où les ponts Kitembo situés dans le territoire de Gungu entre son chef-lieu et Kakobola s'est écroulé depuis jeudi 14 novembre 2024. Selon la société civile de ce territoire, la cause de l'effondrement serait les tonnages excessifs qui passent régulièrement sur cet ouvrage de 32 tonnes qui a été construit par le CTB et qui portait déjà des fissures. Conséquence, suspension du trafic sur cet axe routier qui est d'une importance économique très capitale. Joachim Kusamba, président de cette structure, lance un cri d'alarme au gouvernement afin de décanter cette situation. Les points avec Irène Mbomaluzolo.
Le pont Kitembo est jeté sur la rivière portant le même nom. Il se situe entre la cité de Gungu et Kakobola dans le territoire de Gungu, province du Kwilu, sur l'axe menant vers le territoire de Kayemba dans la province du Kwango. D'après le président de la société civile de Gungu, l'écroulement de cet ouvrage a déjà un impact négatif sur les ravitaillements en carburant en provenance de Kayemba et l'évacuation des produits agricoles vers les grands centres de consommation. La circulation est suspendue sur cet axe routier. Du coup, des dizaines de véhicules transportant les carburants et autres marchandises sont bloqués de part et d'autre, indique Joachim Kusamba qui en appelle à l'intervention urgente des décideurs.
Le pont est donc complètement détruit. Tous les gros véhicules qui vont aller s'approvisionner en carburant au niveau de Kayemba, il y a des gros véhicules qui Tikapa et Mujimai, ils passent sur ce pont-là. Finalement, ils avaient créé des fichiers et donc hier, ils ont cédé.
Bon, notre message est que le gouvernement tourne les regards vers Gungu et donc de réhabiliter ce pont-là. Nous nous adressons aussi au gouvernement provincial de Kwilu pour voir qu'on trouve des solutions aussi vite que possible pour réparer, donc pour réhabiliter les ponts, ou soit carrément construire un nouveau pont.
Joachim Kusamba précise que le pont Kitembo qui vient de s'écrouler a déjà totalisé 14 ans. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les leaders communautaires, chefs coutumiers et forces vives du secteur de Benimbaou ont été sensibilisés mardi à la nécessité de s'approprier les travaux de construction d'infrastructures socio-communautaires des bases dans le territoire de Beni. Parmi les projets en cours figure la construction des deux écoles, d'un centre de santé ainsi que la réhabilitation de 52 km de route. Clovis Munihire, coordonnateur provincial du PDDRCS au Nord Kivu, a appelé la communauté à soutenir ses projets. Il a par ailleurs lancé un appel aux groupes armés encore actifs dans le territoire des Beni à s'y rendre volontairement pour profiter des opportunités offertes par les projets Star Est. Voici Clovis Munihire dans un extrait choisi par André Kitenge.
Le message à transmettre et la communauté s'approprie du projet parce que les infrastructures qui seront érigées ici, ça va rester ici, dans le secteur de Mbao, définitivement. Donc, les communautés, ils ont besoin de s'approprier ces projets et accompagner les acteurs de Star Est et ceux du PDDRCS qui sont censés suivre et encadrer la mise en œuvre de ces infrastructures. Et je profite aussi pour faire appel aux combattants qui traînent encore et qui sont encore dans la brousse. Voilà des opportunités. Ceux qui vont travailler, ce ne sont pas des gens qui viendront de l'Ouest. Ce sont les enfants d'ici, les fils du terroir, qui vont travailler comme MEDEF. Et comme vous le savez, les PDDRCS et les Star Est, ils travaillent en complémentarité. Et pour nous, on ne veut plus démobiliser les gens et les laisser dans la rue. Donc on les démobilise et automatiquement, on leur donne de l'emploi pour qu'ils ne puissent plus faire la marche arrière dans la brousse et reprendre les armes.
La ville de Butembo, nous sommes toujours au Nord Kivu, est en proie à une insalubrité criante et à la dégradation avancée de plusieurs de ses artères principales comme l'avenue Matokeo, une partie de la rue Kinshasa, dans le quartier Musanga, longue de 4 km à partir du rond-point Malumalu ou encore les tronçons Shop Central Vodacom menant vers Mutiri. Ces conditions aggravent les risques d'accidents et suscitent l'indignation des habitants. Face à cette situation alarmante, présidente, Mbenze Yotama Nzanzu, députée provinciale élue de Butembo, a rencontré les maires pour proposer des pistes de solutions urgentes. Il a notamment insisté sur la mise en place d'une équipe permanente de nettoyage et sur la réhabilitation des avenues impraticables. Voici un extrait de ses propos choisis par Guylaine Kassassia.
Nous avons reçu beaucoup d'administrés ici à notre office qui se sont indignés par rapport à les salubrités qui caractérisent la ville de Butembo. Si vous traversez les artères de la ville de Butembo, le boulevard, surtout les rues avenues macadamisées, vous allez constater avec amertume que les salubrités ne cessent de caractériser notre chère ville. C'est en ce titre que nous avons estimé nécessaire de rappeler monsieur le maire de ville par rapport à sa mission de garantir l'ordre public et que donc lorsqu'il y a le salubrité, nous estimons que l'ordre public est touché déjà dans son aspect salubritaire. Nous avons estimé que monsieur le maire de ville devrait mettre en exergue une équipe permanente, devra chaque fois balayer le boulevard des rues macadamisées évidemment, mais aussi lutter contre cette impraticabilité qui caractérise certaines avenues de la ville. Les caniveaux sont tellement bouchés, c'est vraiment inacceptable que la ville continue à se détériorer de cette manière alors que nous avons évidemment des autorités qui sont censées soulager la population, minimalement soit-elle.
Actualité internationale.
848 000 Gabonais sont appelés à adopter ou rejeter par référendum les projets de constitution du pays. Les bureaux de vote sont ouverts à 7 heures et fermeront à 18 heures. Les textes soumis à référendum consacrent un régime présidentiel au détriment du régime semi-parlementaire en vigueur depuis des décennies. Ils prévoient un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans pourront être candidats à une élection présidentielle.
L'invité.
Notre invité dans ce journal, c'est la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires. Jeanne Alacha vient de participer à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à un atelier de renforcement des États francophones sur les droits humains. C'est dans le cadre du protocole de Maputo. Jeanne Alacha nous parle de la contribution de la RDC à ces assises qui ont réuni plusieurs chefs d'États africains et leur impact pour les pays dont la province de l'Ituri affectée par de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Jeanne Alacha s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Jeanne Alacha, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de prendre part à un atelier sur le renforcement des relations entre les États francophones dans le cadre du protocole de Maputo en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est quoi le protocole de Maputo?
Le protocole de Maputo, d'abord, c'est la charte africaine. La charte africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est une qui gère tous les Africains. Pour compléter cette charte qui n'avait pas beaucoup tenu compte des problèmes des femmes, on a fait un protocole qui complète la charte. Et maintenant, c'est le protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
De quoi il était question dans cet atelier?
Dans cet atelier, il était question de rappeler d'abord au pays, quand un pays adhère à la charte, quand un pays ratifie les protocoles, doit faire des rapports pour que, au niveau de l'Afrique, on regarde s'il y a des évolutions positives, ou bien il y a des reculs, ou il y a des changements, pour faire les rapports, est-ce que les droits de l'homme et les droits des femmes évoluent positivement? C'est pourquoi il faut faire des rapports. Dans notre cas de la RDC, dans 20 ans, on a fait seulement un seul rapport.
Et qu'est-ce qui fait à ce que la RDC ne produise pas assez de rapports, donc au regard de tout ce que les peuples congolais connaissent jusqu'à présent?
Bon, je crois que le problème des rapports, c'est question aussi d'organisation. Peut-être qu'au niveau de chaque ministère, il y a du retard, mais ce qui est sûr, à la RDC est en train de préparer son deuxième rapport.
Cette rencontre a réuni différents chefs d'État africains. Qu'est-ce qui a motivé la présence de l'Ituri à ces assises?
Bon, nous, la présence de l'Ituri, c'est parce que déjà, en Ituri, par rapport au ministère du genre, nous sommes vraiment très actifs. Nous sommes parmi les provinces qui sont vraiment, même dans la mise en œuvre de la résolution 1325, les suivis des droits des femmes. C'est comme ça qu'on a été identifié par les ministères de genre pour pouvoir aller représenter au moins les provinces dans ces assises-là. Donc c'est vraiment par rapport au leadership qui se passe au niveau de notre province qu'on a été identifié.
Ça veut dire que l'Ituri a eu des particularités, par exemple, pour être représenté là-bas?
La particularité de l'Ituri, c'est d'abord nous sommes dans une zone de conflit, et dans les rapports, on parle vraiment de conflits aussi. Il y a des viols des femmes qui se font au niveau de l'Ituri, il y a beaucoup de discriminations, donc on pouvait aussi quand même montrer l'image de l'Est, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Est. C'était quand même important que nous soyons là avec la délégation de Kinshasa pour que on montre aussi qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut compléter les rapports avec ce qui se passe au niveau de l'Est.
Quelle a été votre contribution dans le cadre de la promotion du leadership féminin africain en s'inspirant sur l'exemple de l'Ituri?
Bon, on a été invité parce que on a fait la conférence dans une université de Boaké, l'université Alassane Ouattara. Et Boaké, vous savez que c'était aussi une région qui était très affectée par les guerres. C'était aussi une zone qui était contrôlée par les rebelles qui est tentée de se reconstruire. Donc il fallait quand même partager avec les étudiants de cette région qu'est-ce qui se passe en Ituri. Parce que le problème, c'est qu'il faut aussi intéresser les jeunes, surtout on a fait à l'université et à l'école secondaire.
Que peuvent donc attendre les femmes de l'Ituri, en particulier celles-là qui vivent dans des conditions misérables, dans les sites déplacés, par exemple ici, de ces assises?
D'abord, les assises qu'on a fait d'abord au niveau de protocole de Maputo, ça veut dire là, ce sont les obligations des États. Donc, le point de vue de l'Ituri, ce qui est important, c'est de montrer qu'en Ituri, que les femmes ont un rôle très important à jouer. Ils sont dans les négociations, dans la prévention des conflits et dans tout ce qui est relèvement communautaire. Alors, qu'est-ce que les femmes de l'Ituri peuvent attendre? Les femmes d'Ituri ne peuvent pas attendre que ça vienne de la Côte d'Ivoire. Mais on a partagé leur travail là-bas. Ça veut dire quand même que leur travail est reconnu au niveau aussi des autres pays d'Afrique. Donc l'Ituri, la RDC, même l'Ituri peut être défendu aussi par d'autres pays africains. Parce que les autres pays africains ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de ce qui se passe en RDC. Ils sont touchés et ils veulent que ça cesse.
Jeanne Alacha, je vous remercie.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Billy Landry Betou sous la supervision et coordination de Jude Bilan Dankoumar et Jacques-Yves Moulima. Patience Ngalou Lambombo était à la présentation. Merci de votre sympathique attention.